Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, ravie de vous accueillir pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Régional, J-2, dernier jour de campagne. À 18h20, je recevrai Natacha Bouchard, la vice-présidente de la région Hauts-de-France, soutien de Xavier Bertrand, dans cette région dont on dit qu'elle fait partie de celle qui pourrait tomber dans l'escarcelle du Rassemblement National. Ces élections, on y reviendra aussi avec les grandes voix du vendredi, bien sûr, à partir de 18h30. Les derniers échos de la campagne, un scrutin qui s'annonce délicat, en particulier pour La République En Marche, la majorité présidentielle. Pense déjà à la question d'éventuelles alliances pour le second tour. Et puis demain, ça fera 35 ans que Coluche nous quittait. Un putain de camion, comme chantait Renaud, privait la France de l'un de ses plus grands humoristes. Coluche qui a vécu une très belle histoire, vous le savez, avec Europe 1, où il a animé des émissions cultes avec une liberté de ton et un humour corrosif, mais aussi beaucoup de tendresse et de générosité. Ce soir, c'est ce Coluche de la radio d'Europe 1 qu'on va réentendre ensemble à partir de 19h20 avec ses amis, ses collègues de la Radio Bleue, avec sans doute un peu de nostalgie, mais surtout beaucoup de bonheur. Mais ça, c'est pour plus tard, parce que tout de suite, c'est le journal présenté par Christophe Lamarre. Bonsoir Christophe.
Bonsoir Isabelle.
Il est 18h, merci à vous d'écouter Europe 1.
6 mois après la disparition de Delphine Jubilard, son mari Cédric Jubilard est mis en examen ce soir pour meurtre aggravé et écroué.
Devant le juge, Cédric Jubilard a maintenu ses déclarations. Il n'est pour rien, dit-il, dans la disparition de son épouse.
Moscou submergé par les contaminations au variant Delta, il représente 90% des nouveaux cas. La Grande-Bretagne massivement touchée elle aussi, mais pas la France, où il représente seulement 2 à 4%.
La réouverture des boîtes de nuit, ce sera pour début juillet, mais attention avec un pass sanitaire et un protocole qui n'enchante pas vraiment les patrons de discothèques.
L'Iran se choisit un président, élection présidentielle sur fond d'abstention et de crise économique et sociale.
Cannes veut faire un geste pour la planète. Le festival répond à ses détracteurs et dévoile une sélection éphémère spéciale climat. 7 films seront présentés hors compétition.
La Bourse de Paris en net replie ce soir, moins 1,46% à 6569 points.
La météo, bonsoir Anissa Adali.
Bonsoir Isabelle.
Et les orages qui malheureusement, ça y est, sont de retour déjà. Oui.
Une petite journée de répit, voilà ce que nous avons eu. Les orages sont de retour, en effet Isabelle, ils arrivent demain par l'ouest. Le Rhône reste d'ailleurs en vigilance orange canicule, il va faire chaud encore demain sur Lyon et sa région. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
L'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard après 48 heures de garde à vue. Son mari Cédric Jubilard a donc été mis en examen pour meurtre aggravé et écroué.
Et il maintient pourtant sa version des faits et continue de clamer son innocence. Son avocat fait remarquer que l'on ne sait toujours rien des causes du décès, ni même de sa réalité. Le procureur de la République a lui tenu une conférence de presse cet après-midi pour donner les tout derniers éléments de l'enquête, Benjamin Péter.
Oui, le procureur qui a détaillé les éléments troublants, les incohérences de Cédric Jubilard concernant le déroulé des faits de cette nuit du 15 au 16 décembre. Tout d'abord, le peu de temps qui s'est écoulé, 16 minutes à peine entre le moment où il dit avoir constaté la disparition de Delphine et le moment où il appelle les gendarmes. Il y a également cette machine à laver contenant la couette sur laquelle dormait son épouse qui tournait à l'arrivée des gendarmes, vraisemblablement à l'initiative de Cédric Jubilard. Et puis autre élément, ce véhicule, celui Delphine, qui a été déplacé alors même que Cédric Jubilard n'a pas le permis et dont les vitres laissaient apparaître de la condensation. Les expertises confirmeront qu'elle est consécutive à une présence humaine. Et enfin, contrairement à ce qu'il a toujours affirmé, cette dispute qui aurait éclaté entre les deux époux un peu après 23 heures, Louis, son fils de 6 ans, dit avoir entendu des cris, tout comme deux voisines.
Juste après 23 heures, deux voisines, une mère et sa fille, vont entendre en direction du domicile de la famille Jubilard, des cris stridents et de détresse d'une femme qui vont effectivement les interpeller et qui vont progressivement disparaître et s'arrêter dans la nuit. Ce sont des éléments auxquels M. Jubilard ne donne pas de réponse crédible.
Alors, il a été mis en examen pour meurtre par conjoint et placé sous mandat de dépôt. Le procureur qui indique par ailleurs que les investigations vont se poursuivre sans relâche pour retrouver Delphine Jubilard, mais aussi sur la personnalité de Cédric Jubilard, dont il ressort selon lui une forme de déni, lui qui a fait un deuil très rapidement, parlant presque immédiatement de son épouse au passé.
Benjamin Péter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse.
Si l'épidémie de Covid s'éloigne, le variant Delta continue de faire planer la menace d'une reprise des contaminations.
À Moscou, il représente 90% des nouveaux cas, 9000 infections en 24 heures dans la capitale russe qui ferme les fan zones de l'euro. Ce variant sévit aussi de plus en plus en Espagne, en Allemagne et en Grande-Bretagne, où le Premier ministre a repoussé au 19 juillet la dernière étape du déconfinement. Qu'en est-il de la situation en France, Anne Le Gall ?
Alors en France, ce variant reste largement minoritaire avec 2 à 4% de cas positifs selon Olivier Véran. Mais le nombre de cas a quadruplé en 3 semaines avec 50 à 150 diagnostics par jour aujourd'hui. Et les autorités sanitaires ont détecté plusieurs foyers de transmission communautaire dans les Landes, à Strasbourg, en Île-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À chaque fois, des mesures de dépistage ciblées ont été mises en place. Mais il y a un risque que ce variant Delta devienne majoritaire car il est plus contagieux que le variant britannique. Pour le docteur Daniel Lévy-Brul, épidémiologiste à Santé publique France, malgré la baisse encourageante des contaminations, des hospitalisations, l'épidémie n'est pas terminée.
Le virus est toujours là, il circule et comme ça a été mentionné, on reste sous la menace de la diffusion du variant Delta, même si on a comme arme l'effet saisonnier qui devrait être favorable et surtout la montée en charge de la vaccination.
Effectivement, selon une étude britannique, les vaccins à ARN messager et AstraZeneca restent efficaces contre le variant Delta à plus de 90%, mais à condition d'avoir bien reçu les 2 doses. Et dans l'intervalle, donc, les gestes barrières, la distance, le port du masque restent plus que jamais d'actualité.
Les précisions importantes d'Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. Vous savez que depuis avant-hier, la France a supprimé l'obligation du port du masque à l'extérieur. La fin du couvre-feu est actée pour ce dimanche matin à 6h. Et les boîtes de nuit, Christophe, vont-elles aussi pouvoir ouvrir?
Réouverture envisagée début juillet, mais le protocole sanitaire n'incite pas vraiment à la fête, Angèle Châtelier.
Non, parce que ce qui est le plus probable, c'est que pour aller danser en boîte, il faille montrer un pass sanitaire. Mais cela implique plusieurs problèmes. Les jeunes, ceux qui y vont le plus, sont loin d'être tous entièrement vaccinés. Seulement 8% des 18-29 ans. Auquel cas, pour aller se déhancher, ils devront montrer un test antigénique négatif. Ce n'est pas vraiment dans l'ADN des discothèques de prévoir d'y aller. Et surtout, c'est injuste par rapport aux bistrots et bars de nuit qui n'ont pas cette contrainte du pass sanitaire. C'est ce que déplore Patrick Malves, président du syndicat des discothèques.
Donc on va pouvoir continuer à danser dans les bistrots, dans les restaurants ambiance musicale, faire la discothèque qui ne dit pas son nom, dans les clubs de plage de l'été, etc. Et pas dans les discothèques. Il faut arrêter de se moquer du monde.
Prévoyez aussi de devoir porter un masque sur le dance floor et de ne pas pouvoir consommer debout, mais seulement sur la table avec vos amis. Et les fumoirs seront fermés. Toutes ces contraintes sont intenables, nous dit Thierry Fontaine. Il s'occupe de la branche nuit au syndicat hôtelier Lumi. Selon lui, personne ne viendra.
Si le gouvernement cherche une discothèque test, je lui conseille de trouver une prison avec un quartier de haute sécurité.
Il y aura aussi une jauge limitée à 65% au moins en juillet. Emmanuel Macron doit dessiner les contours de la réouverture des boîtes de nuit ce lundi à l'occasion de la fête de la musique.
Angèle Châtelier du service culture d'Europe 1.
Comment se dire adieu? Emmanuel Macron est à Berlin pour un dîner avec Angela Merkel pour préparer le Conseil européen la semaine prochaine. L'une des dernières occasions pour le président français d'avoir un tête-à-tête avec la chancelière dont le mandat arrive à son terme.
Emmanuel Macron qui a présidé ce matin au mémorial du Mont-Valérien, la cérémonie militaire pour le 81e anniversaire du 18 juin 1940, Louis de Ragnel.
Oui, pour cet anniversaire, Emmanuel Macron a rendu hommage à 2 vétérans. Hubert Germain, le dernier compagnon de la Libération, ainsi qu'à Léon Gauthier, le dernier survivant du commando Kieffer. Et une femme cette année, la résistante de 92 ans, Colette Marin-Catherine. Le chef de l'État a d'abord reçu à l'Élysée Léon Gauthier et Colette Marin-Catherine, deux personnalités marquées par leur souci de transmission de la mémoire de la résistance et de ses valeurs, selon l'entourage d'Emmanuel Macron. Quelques minutes plus tard, le président a profité de la cérémonie qui s'est tenue au Mont-Valérien pour décorer de la médaille militaire 4 soldats qui se sont illustrés en opération extérieure. Faisant très attention à sa gestuelle, Emmanuel Macron s'est ensuite approché d'Hubert Germain en serrant les mains de l'ancien combattant désormais centenaire. Pour terminer, un chiffre à retenir, seules 1038 personnes ont reçu le titre de compagnon de la Libération.
Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1, on sera en Iran où se tient aujourd'hui une élection présidentielle dans un pays rongé par la crise économique.
Et puis Cannes repeint son festival en vert.
A tout de suite. 18h09, c'est la suite du journal de Christophe Lamarre sur Europe 1 et l'Iran qui se choisit un nouveau président aujourd'hui. Mais le cœur des Iraniens n'y est pas vraiment.
Le pays traverse une profonde crise économique, un scrutin qui ne soulève pas l'enthousiasme des Iraniens. Les candidats ont d'ailleurs peu à peu déserté la campagne et dans ces conditions, l'abstention promet d'être importante. On vote depuis ce matin et on pourrait voter jusqu'à 2h du matin, voire toute la nuit. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes notre envoyé spécial à Téhéran.
C'est ça, tout est fait pour limiter l'abstention. Ici, les Iraniens votent sous le regard des ayatollahs Khomeini et Khamenei, deux immenses posters déployés sur les murs d'une imposante mosquée et devant lesquels passe Abdoulaye. Il dit être venu aux urnes parce que son candidat l'a appelé à l'aide.
C'était lors d'un débat télévisé. Il nous a demandé d'aider le pays en votant. La dévaluation de notre monnaie face au dollar, c'est une forme de guerre. Donc si je vote, je viens à l'aide de la situation économique de mon pays.
Il s'est décidé subitement, ce ne sera pas le cas de Farzaneh, une fonctionnaire qui veut encore prendre son temps et même un peu d'air avant d'aller voter.
On a jusqu'à 2h du matin pour venir voter. Alors comme nous avons de belles montagnes à Téhéran, je vais aller faire une petite randonnée pour réfléchir.
Une réflexion somme toute limitée puisque parmi les 7 candidats, 3 ont jeté l'éponge dans les dernières heures, laissant un peu plus le champ libre aux candidats conservateurs.
Jean-Sébastien Soldaini, envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran. L'ONU publie un rapport inquiétant sur ceux que l'on appelle les déplacés, les personnes qui cherchent à fuir les crises et les guerres.
Leur nombre a doublé en 10 ans. 82 millions de personnes ont quitté leur pays pour fuir les persécutions et les exactions. Et la pandémie n'a pas freiné ce désir d'exil, selon l'agence. Cela donne aussi souvent des drames. 4 personnes, dont une femme enceinte, sont mortes au large des Canaries après le naufrage de leur bateau qui transportait 49 migrants. 4 autres sont portées disparues.
En Pologne, le gouvernement s'en prend à la Russie accusée de cyberattaque.
Varsovie a mené son enquête et l'assure. L'attaque informatique qui visait des hauts responsables politiques polonais, eh bien, elle est d'origine russe.
L'Euro de football en attendant, bien sûr, l'équipe de France demain après-midi face à la Hongrie. Et il y a 2 matchs au programme ce soir.
Croatie-République tchèque, la rencontre a débuté à 18h et toujours 0-0 entre les Croates et les Tchèques. Et puis ce soir à 21h, l'Angleterre affrontera l'Écosse.
Bientôt le festival de Cannes, c'est paillettes, c'est jet, c'est yacht, c'est décapotable. Un festival qui veut tourner la page.
Oui, et il a été beaucoup critiqué pour son peu d'intérêt pour la cause environnementale. Cannes prend un tournant cette année et annonce une sélection très écolo, Mathieu Charrier.
Oui, avec une sélection spéciale, le cinéma pour le climat. Alors, 7 longs métrages y figurent, ils ont été annoncés aujourd'hui. Par exemple, La Croisade de Louis Garrel, coécrit avec Jean-Claude Carrière. Fable d'anticipation dans laquelle les enfants prennent le pouvoir pour protéger la planète. Aïssa Maïga, elle réalise Marche sur l'eau. L'autrice est allée au Niger, filmer un village victime du réchauffement climatique et de la sécheresse. Cyril Dion, vous vous en rappelez peut-être, réalisateur de Demain qui avait cartonné en salle. Eh bien, Cyril Dion revient avec Animal, dans lequel il alerte cette fois sur l'extinction des espèces en suivant 2 adolescents engagés. Enfin, dernier exemple, La Panthère des Neiges. Si vous aviez lu le livre de Sylvain Tesson, eh bien, une caméra les suivait dans leur quête du félin et ça donne donc un film. Voilà, 7 longs métrages cinéma pour le climat qui viennent en complément d'action décidée par le festival. Par exemple, les voitures, vous savez, qui accompagnent les stars jusqu'au tapis rouge, 60% seront désormais hybrides ou électriques. Les impressions papier diminueront de moitié. Les traiteurs devront utiliser des produits de saison et locaux. Les bouteilles d'eau en plastique seront supprimées. Il y en avait quand même 22 000 utilisées lors de la dernière édition. Et puis chaque festivalier devra régler, dès cette année, une contribution environnementale de 20 euros.
Ah, c'est dit. Mathieu Charrier,
j'ai payé la mienne, d'ailleurs.
C'est déjà fait ?
Oui, ben oui.
Il y a intérêt ?
Mathieu Charrier, chef du service culture d'Europe 1.
Merci Christophe Lamar. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres de l'info et à 19h bien sûr pour un nouveau journal. Tout de suite la météo.
La météo avec l'assurance habitation BNP Paribas. L'assurance habitation qui s'adapte à vos besoins. BNP Paribas, la banque et l'assurance d'un monde qui change.
Anissa Haddadi, une nouvelle dégradation orageuse arrive.
Eh oui Isabelle, fin de la pause. Cette nuit, en effet, une nouvelle dégradation arrive par l'ouest. Les orages vont d'abord toucher cette nuit le littoral atlantique. Très rapidement, ces orages vont gagner du terrain. Ils vont s'enfoncer dans le pays. Sur la Gironde, le Limousin, les Pays de la Loire, les orages pourraient être forts. Alors pour l'instant, nous n'avons pas de vigilance orange, mais ça risque d'arriver tôt demain matin, aux alentours de 6h du matin, on va surveiller ça de près. Demain matin, les orages vont remonter vers les Pays de la Loire, la Normandie et la Bretagne. Ces orages-là aussi seront accompagnés d'averses de grêle. Du sud-ouest à la région parisienne, sur une large diagonale qui coupe la France en deux, et bien là, nous aurons un temps agité, très orageux. À l'est, rien à signaler, c'est du grand et beau soleil. Les températures, 12 à 21 degrés demain matin, un peu de fraîcheur, tiens, au lever du jour. Dans l'après-midi, 17 à Cherbourg, 18 à Brest, 22 à La Rochelle, 25 à Lille et Rouen, c'est un peu plus frais sur le nord et le nord-ouest. Ailleurs, c'est chaud. 28 à Paris et Limoges, 30 à Nîmes, 32 à Clermont-Ferrand et 34 à Strasbourg, la maximale. Le Rhône, toujours en vigilance orange canicule.
Merci beaucoup, Anissa. On vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point météo.
À tout à l'heure.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un instant, je reçois la maire de Calais, Natacha Bouchard, soutien de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Dernier jour de campagne pour les régionales. Les Hauts-de-France, l'une des régions qui sera particulièrement scrutée dimanche, notamment pour le score du Rassemblement national. Il est 18h18, merci à vous d'écouter Europe 1. Dans un tout petit instant, comme promis, je recevrai Natacha Bouchard, la maire Les Républicains de Calais, candidate aux côtés de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, tête de liste dans le Pas-de-Calais. Mais d'abord, on va retrouver nos grandes voix du vendredi. À mes côtés ce soir, il y a Guillaume Tabar, rédacteur en chef, éditorialiste politique au Figaro, Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Je vous remercie tous les trois, messieurs, de m'accompagner ce soir. Alors à minuit, c'est la fin de la campagne du premier tour des régionales. On a donc quelques heures encore ensemble pour en parler. Ce sont des élections qui, dans plusieurs régions, pourraient nous réserver des surprises. Si vous voulez bien, on va faire un petit tour d'horizon ensemble. D'abord, la grande question, c'est l'une de ces régions. De ces régions, va-t-elle tomber dans l'escarcelle du Rassemblement national? Le RN peut-il franchir son plafond de verre? Ce serait une première. Marine Le Pen s'est d'ailleurs affichée hier aux côtés de Thierry Mariani, en région PACA, l'une des cibles de son parti.
La joie qui est la mienne d'être ici avec Thierry Mariani dans cette dernière ligne droite d'une campagne qui va aboutir à une véritable alternance dans la région. La région est sous la direction de M. Muselier, le bonnet d'âne quasiment des régions françaises. Et, or, nous visons l'excellence pour cette région et Thierry Mariani va offrir l'excellence à cette région.
Alors une victoire du Rassemblement national en région PACA, est-ce que vous y croyez, les grandes voix? Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express.
Oui, si je regarde les sondages, j'y crois évidemment. Le dernier sondage donne Thierry Mariani gagnant à 53% au second tour, même en cas de duel, c'est-à-dire en cas de défection, d'abandon du candidat de la gauche entre les deux tours. Donc évidemment, il y a des raisons d'y croire, il y a des raisons d'être prudent aussi. En 2015, je rappelle, Marion Maréchal Le Pen, qui était à la place de Thierry Mariani, fait un score impressionnant au premier tour. Elle reste coachée entre les deux tours et finalement perd assez nettement face à Christian Estrosi parce que du côté de l'électorat, on n'a pas fait confiance au Rassemblement National et très massivement, tous les électeurs, notamment de gauche, se sont reportés sur le candidat des Républicains, de la droite républicaine, c'était Christian Estrosi. Reste à savoir si ça se passera comme ça avec Renaud Muselier.
Oui, c'est ça. Il faut être prudent quand même parce que Thierry Mariani, là, il a connu Henri Vernet une progression de 10 points en quelques mois face à un Renaud Muselier qui a stagné, voire même baissé.
C'est-à-dire que le trouble a été largement jeté sur cette élection, cette campagne, puisque Renaud Muselier, on ne va pas rappeler tout l'épisode de l'Alliance.
Le psychodrame avec chez les Républicains. Oui. Les boules puantes, on peut dire, oui.
Alors, boule puante, mais psychodrame politique au départ, au sein de la famille républicaine, au sein de LR. Aujourd'hui, je mets au défi des électeurs LR de s'y retrouver. C'est aussi pour ça qu'on voit monter un Thierry Mariani, qui explique d'ailleurs en partie cette faveur dont il bénéficie dans les sondages, c'est qu'il n'est pas un candidat comme Marion Maréchal l'était il y a 6 ans. Lui, il vient de la famille UMP à l'époque, il a été un ministre de Nicolas Sarkozy, et donc, quelque part, il peut rassurer, en tout cas convaincre, ces électeurs républicains qui jusqu'ici avaient du mal à franchir le pas. Étienne rappelait à juste raison cette incapacité de Marion Maréchal de franchir en quelque sorte le plafond de verre entre les deux tours. Il y a eu aussi le Front républicain, le fait que la gauche se retire, à l'époque c'était Christophe Castaner, se retire complètement, c'est-à-dire sans même négocier de fusion, sans rien. Là, le cas de figure est différent parce que, d'abord, je pense qu'on y reviendra, mais on ne sait pas du tout s'il y aura ou non Front républicain. Mais surtout, encore une fois, Marine Le Pen et son parti avancent avec un candidat qui ressemble beaucoup à ce que pratique l'électorat de cette région depuis un certain temps, c'est-à-dire, encore une fois, Thierry Mariani qui vient des rangs de la droite. Et on sait que, précisément dans cette région, la porosité des deux électorats est traditionnellement grande, je veux dire des électorats républicains et FN et puis aujourd'hui RN. Donc c'est cela qui en effet aujourd'hui amène les sondages très très haut. Maintenant attention, il ne faut pas préjuger du second tour parce que, alors c'est vrai que les sondages en effet donnent cette configuration, mais autant les...
Une courte tête quand même, à 51%, 49%.
Donc ça veut dire qu'on est dans la marge d'erreur, la fameuse marge d'erreur de 3 points en plus ou en moins, qui fait que les candidats se chevauchent. Mais c'est surtout qu'un deuxième tour, c'est une autre élection. Et cette autre élection, elle dépendra largement de la dynamique qui naîtra de dimanche soir. C'est-à-dire d'abord du score des uns et des autres. Et puis justement, est-ce qu'il y aura Alors, désistement, ça, je n'y crois pas. Ça fait 6 ans qu'ils n'ont plus de, que la gauche n'a plus d'élus. Mais en revanche, aujourd'hui, on parle d'accords techniques avec des fusions possibles. Est-ce qu'il y aura une dynamique de front républicain? Quelles seront les, comment dire, les attitudes, les déclarations des uns et des autres? Ce qui fait qu'encore une fois, on partira dans un autre paysage. Et là, les sondages, pour l'instant, sont moins pertinents.
Louis Dragnel, chef adjoint des services politiques d'Europe 1, nous a rejoint également. Tout à l'heure, Étienne Girard, je crois, disait que finalement, Thierry Mariani, c'est l'image parfaite de la dédiabolisation voulu par Marine Le Pen, qu'il n'y a pratiquement plus de frontières entre le RN et LR avec lui.
Alors, en tout cas, Marine Le Pen l'a choisi précisément pour ces critères-là. Donc, c'est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, ministre des Transports. Donc, c'était un élu local qui ensuite a été député des Français de l'étranger. Mais du coup, c'est un peu effectivement la caricature, l'archétype des profils que Marine Le Pen souhaite effectivement valoriser, mettre en avant. Pour essayer de montrer effectivement cette dédiabolisation. Ensuite, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, et effectivement, vous savez, tout le monde parle là du phénomène Marine Le Pen, de ces régions qui peuvent basculer, au Rassemblement National. Je pense qu'en fait, il y a deux cas de figure qu'on regardera de près dimanche soir. Le premier, c'est effectivement, est-ce qu'au moins une région bascule? Et la deuxième chose, c'est combien de régions vont rester à droite? Combien de régions vont rester à gauche? Et puis derrière tout ça, une sous-question également, c'est est-ce que Marine Le Pen a réellement augmenté son nombre de voix? Et ça, c'est quelque chose qu'on comparera par rapport aux derniers scrutins, aux dernières élections régionales. Parce qu'on entend un peu quand même, globalement, c'est la même musique que la dernière fois. Pour Emmanuel Macron, pour les Républicains et pour le Parti Socialiste, si éventuellement le Rassemblement National ne remportait aucune région, eh bien, leur discours consistera à dire on a encore une fois joué à se faire peur, mais le danger du Rassemblement National, en tout cas, la stratégie mise en place a permis de faire barrage au Rassemblement National.
Alors, pour en revenir à ces régions qui pourraient peut-être basculer du côté du Rassemblement National, on a évoqué effectivement cette région PACA. Je voudrais qu'on parle des Hauts-de-France également. Henri Vernet, Xavier Bertrand, qui pourraient être au coude à coude avec Sébastien Chenu, le candidat du RN. Si les listes LREM et de gauche se maintiennent, est-ce que Xavier Bertrand peut perdre les Hauts-de-France, selon vous?
Alors, dans une élection, tout est possible. Ce ne sont pas des élections à la Staline. Lui, il était sûr de gagner à tous les coups. D'ailleurs, il reste beaucoup de régimes qui ressemblent beaucoup à l'Union soviétique de Staline et où on est sûr à peu près du résultat. Dieu merci, ce n'est pas le cas en France. Donc oui, il peut perdre. Néanmoins, disons qu'il est plutôt bien placé. Vous évoquez Sébastien Chenu. C'est vrai qu'il est assez haut dans les sondages de premier tour. Cependant, il n'a pas la dynamique qu'avait Marine Le Pen. C'était Marine Le Pen elle-même qui conduisait la liste en 2015. Elle était arrivée avec plus de 40% dans les Hauts-de-France, donc comme sa nièce en PACA. Mais voilà, il y avait cette dynamique qui était forte et qui aujourd'hui, malgré tout, n'existe pas. Donc, alors bien sûr, il y a toujours cette espèce, vous savez, de vote caché, de déclaration un petit peu. On a du mal encore aujourd'hui pour des électeurs RN de se déclarer en tant que tel. Donc peut-être qu'il peut y avoir des petites surprises de ce côté-là. Il n'empêche, là pour l'instant, Xavier Bertrand a plutôt... c'est plutôt lui qui a la bonne dynamique. Il est président sortant. Il faut bien voir que dans ce scrutin, de manière générale, les présidents sortants, en tout cas les plus établis, Carole Delga et Alain Rousset à gauche, évidemment Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez à droite, ont plutôt des vents porteurs en tant que sortants parce que leur bilan, sont les enquêtes qui nous le montrent, sont plutôt jugés positivement par l'ensemble des électeurs, quelle que soit leur appartenance politique. Donc bon, il bénéficie de ça. En revanche, son pari à lui, c'est surtout de gagner sans avoir besoin ni de la gauche et encore moins de l'RM.
On va y revenir, c'est promis. Je vous propose qu'on marque une courte pause pour le rappel des titres et puis je vous retrouve tout de suite les grandes voix du vendredi. Merci à vous d'écouter Europe 1. Il est 18h30, l'heure du rappel des titres avec vous, Christophe Lamarre.
Cédric Jubillard mis en examen pour meurtre aggravé et écroué. Le mari de Delphine Jubillard, disparu depuis 6 mois, continue de clamer son innocence. Hausse record des contaminations liées au Covid à Moscou. Plus de 9000 cas enregistrés en 24 heures. 90% des nouvelles infections sont dues au variant Delta. Les autorités interdisent les rassemblements de plus de 1000 personnes et ferment les fan zones dédiées à l'Euro de football. Enfin, opération réussie pour Christian Eriksen qui a pu quitter l'hôpital. Le joueur danois s'est fait implanter un défibrillateur après avoir été victime d'un arrêt cardiaque lors du premier match de l'Euro contre la Finlande.
Il va mieux et ça c'est une bonne nouvelle. Merci Christophe Lamarre, on vous retrouve à 19h pour un journal complet. La météo, Anissa Haddadi, avec un risque élevé d'orages violents pour demain.
Oui, alors pour l'instant, Isabelle, nous n'avons aucun département placé en vigilance orange. On va surveiller ça de près, ça risque d'arriver demain matin très tôt. Alors après cette journée de calme, les orages reviennent, vous le disiez, dès demain matin. De la Manche à l'Atlantique, le ciel est très couvert avec des averses orageuses. Dans l'après-midi, les orages vont concerner une grande partie de la France. En fait, toutes les régions situées entre le sud-ouest et le nord. Sur les Pays de la Loire, c'est là que les orages devraient être les plus violents, accompagnés de grêles et de vents forts. À l'est, de l'Alsace à la Provence, on a toujours un temps sec et ensoleillé avec de fortes chaleurs. Je vous rappelle que le département du Rhône est toujours, lui, placé en vigilance orange canicule.
Et on suivra donc ces orages potentiellement violents avec attention. Merci Anissa.
À tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Isabelle Mieux.
18h31, on poursuit notre débat des grandes voix sur Europe 1, toujours avec à mes côtés Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express, Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Alors, on va parler de cette campagne électorale, évidemment. À minuit, c'est la fin de cette campagne du premier tour. On a donc encore quelques heures pour en discuter ensemble. Ce sont des élections qui, dans plusieurs régions, pourraient nous réserver des surprises. Alors, on a commencé par notre tour d'horizon, par la région PACA. J'aimerais bien qu'on continue sur les Hauts-de-France, où on le disait, Xavier Bertrand pourrait être au coude à coude avec Sébastien Chenu, le candidat du RN. Si les listes LREM et de gauche se maintiennent, si Xavier Bertrand perdait les Hauts-de-France, c'est une hypothèse évidemment, ça signerait la fin de sa carrière politique, vraiment, comme il l'a déclaré lui-même, Étienne Girard ?
Fin de carrière politique, non, parce qu'on n'est jamais mort en politique. On en a vu, on en a entendu des gens expliquer qu'ils allaient arrêter la politique et pas toujours le faire. Donc non. En revanche, la fin de sa candidature à la présidentielle, évidemment, et avec certitude. C'est la jurisprudence Michel Rocard en 1994. Michel Rocard, qui devait être le candidat du PS à la présidentielle de 1995. Il fait un score épouvantable aux européennes de 1994, où il est talonné par Bernard Tapie. Et donc, il n'est pas candidat, il abandonne. Ça se passe toujours comme ça, parce que le désaveu des électeurs vous met dans une position telle que vous ne pouvez pas prétendre l'année suivante à la fonction suprême. Donc, il joue gros, Xavier Bertrand, et ça fait partie, c'est peut-être l'enjeu majeur d'ailleurs, de ces régionales, parce qu'on en parlera peut-être, pour un parti comme La République En Marche, l'enjeu, il n'est pas très important. Pour Xavier Bertrand, oui, là, oui, il joue son destin immédiat en politique, sa candidature à la présidentielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est obligé aujourd'hui de faire un peu le fier à bras et d'expliquer qu'il n'aura besoin ni de la gauche, ni de LREM pour gagner, parce que pour aussi forger son profil de présidentiable, il doit gagner tout seul pour montrer que c'est un homme fort.
Oui. Est-ce qu'il peut y avoir un intérêt, Guillaume Tabar, pour En Marche, de se maintenir et de faire perdre Xavier Bertrand dans un coup de billard à trois bandes, en fait, assez cynique, hein, pour dégager l'horizon de la présidentielle ?
LREM, les macronistes en général, ont réussi un peu, j'allais dire, ce tour de passe-passe tactique pendant cette campagne, qui est que partant de scores partout assez faibles, hein, entre 10 et 15% pour le parti qui est au pouvoir, le parti du président de la République, c'est pas grand-chose. Ils ont réussi à déporter le débat, donc autour de la question du RN et autour de la question, déjà, le même premier tour n'a même pas encore eu lieu, de la question des alliances du second tour. Et c'est vrai, vous l'avez rappelé à l'instant, toute la stratégie des marcheurs consiste à dire aux présidents sortants ou aux candidats qui vont se trouver au second tour face au RN, voire menacés par le RN, de dire « vous ne pouvez pas gagner sans nous ». On va avoir une grande partie de poker menteur parce que il faut déjà que En Marche soit au-dessus des 10% dans
bien
le
sûr,
Nord.
Bien sûr.
Bon, oui. Les derniers sondages, je le mets vraiment autour de la ligne de flottaison, donc rien n'est gagné pour eux. Ensuite, on va bien voir, finalement, si d'aventure Xavier Bertrand est en difficulté, mais on ne le sait pas encore, on le saura dimanche soir, LREM va dire, voyez, vous êtes en difficulté, si vous voulez battre le RN, vous avez besoin de nous. Hein, et Bertrand va répondre, si votre priorité c'est de battre le RN, votre devoir c'est de vous retirer, comme la gauche l'a fait en 2015. Il y a une sorte de partie de bras de fer, de poker menteur, et il y aura 24 heures hein, pour trancher. De toute façon, Xavier Bertrand a déjà dit qu'il ne fusionnerait pas ses listes. Après, tout le jeu, si jamais il devait y avoir un maintien, sera qui fera porter à l'autre la responsabilité d'une éventuelle victoire du Rassemblement National.
Oui, c'est ça. Parce que Xavier Bertrand, effectivement, vous le rappeliez, Guillaume Tabar assure que la liste du premier tour sera la même, hein, Henri Vernet, que celle du second tour. Mais on peut très bien imaginer qu'En Marche dise c'est grâce à nous qu'il a été élu.
Alors ça, ils ne manqueront pas de le faire dans le cas où Muselier, j'allais dire presque par miracle, parce qu'aujourd'hui les sondages sont tels, si Muselier finit par gagner, clairement là, République En Marche dira, bah, vous voyez, ça c'est grâce à nous. Ça, c'est très clair. De même que dans le cas inverse, les Ciotti et compagnie au sein de LR diront, s'il est battu, Muselier, que Marianne y gagne, diront, vous voyez bien qu'il ne fallait pas faire alliance, c'est notre ligne. Sans, en oubliant qu'ils auront eux-mêmes contribué à décourager des électeurs LR de voter pour leur candidat. Je reviens donc aux Hauts-de-France. Oui, bien sûr que LRM pourrait dire ça. Néanmoins, est-ce que pour répondre à notre question précise sur la tactique, sur la stratégie même de LREM, et donc en réalité d'Emmanuel Macron, dans le cas Xavier Bertrand, je crois que non, je crois que son intérêt ne serait justement pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire à première vue, de faire barrage à tout prix à Xavier Bertrand en maintenant une liste qui donc passerait les 10%. Pourquoi ? Parce que l'un des marqueurs de la victoire d'Emmanuel Macron en 2017 et l'un des marqueurs aujourd'hui de tout le discours de LREM, c'est justement toujours de se présenter en barrage contre le Rassemblement national. D'autre part, rappelez-vous, là, on n'arrête pas, quand je dis on, c'est l'opposition, c'est les milieux politiques de manière assez générale, de faire un certain procès, et parfois les médias aussi, il faut bien le dire, de faire un certain procès à Macron qui est justement d'instrumentaliser le Rassemblement national, qu'en gros, il préférerait avoir face à lui au second tour en 2022 comme en 2017 une Marine Le Pen qu'a priori, il pense encore pouvoir battre. Eh bien justement, si les marcheurs et si le président, qui sera bientôt candidat, qui est déjà candidat d'ailleurs en réalité, veut en finir avec ce soupçon, avec cette accusation, il faut que LREM ait une ligne absolument claire dans chacune des régions. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura... Parce que LREM est un des partis qui a des listes à peu près partout, dans 11 régions, sur 12 métropolitaines. Donc il faudra qu'à chaque fois...
Il y a la Corse aussi.
Alors, hors Corse.
Oui,
hors Corse.
Continentale.
Hors Corse, continentale. Non pas métropolitaine, mais continentale, vous avez raison. Eh bien, il faudra que dans chacune de ces régions, LREM soit extrêmement claire et donc fasse ce qui est nécessaire pour ne pas laisser passer le RN, et donc ça veut dire retirer. Même si, en effet, il préférerait peut-être se débarrasser de Xavier Bertrand, tant pis, il faudra choisir le retrait.
On poursuit ce débat dans un tout petit instant. À tout de suite, les Grandes Voix. Suite de votre débat des Grandes Voix sur Europe 1 à 18h39, on continue d'évoquer les régionales qui se tiennent dimanche et l'hypothèse d'une victoire d'un candidat Rassemblement National. Guillaume Tabar, rédacteur en chef éditorialiste politique au Figaro, m'accompagne ce soir. Étienne Girard, rédacteur en chef Société à l'Express. Et Henri Vernet, rédacteur en chef adjoint au Parisien. Alors on a déjà jeté un œil sur les Hauts-de-France, sur la région PACA. J'aimerais bien qu'on parle également du Grand Est, les Grandes Voix. Étienne Girard, là encore, comme dans les Hauts-de-France, hein, un retrait de LREM favoriserait la victoire des Républicains sur le Rassemblement National ?
Oui, surtout qu'on est dans un cas de figure où LREM est plutôt fort avec la candidature de la ministre Brigitte Klinkert. Cela dit, les sondages montrent plutôt que Jean Rottner, le président actuel, est en bonne position, relative bonne position, pour emporter l'élection. Mais là, on est vraiment dans le cas typique d'un choix cornélien pour LREM, parce qu'ils peuvent faire un assez bon score au premier tour. Ils ne sont pas donnés devant le candidat LR, ils sont donnés en position charnière.
19% hein, contre voilà. 29% pour Jean Rottner, d'après les derniers sondages, et 32% pour le candidat Rassemblement National.
Voilà. Donc, il y a le choix, évidemment, de se maintenir, avec le risque mineur, mais qui existe toujours, de faire perdre la droite républicaine face au Rassemblement National. Et il y a l'hypothèse d'une fusion, mais là, qui est sujette à l'approbation du candidat qui serait arrivé premier, en l'occurrence dans l'hypothèse Jean Rottner. Le risque, c'est qu'il ne faut pas oublier que personne n'est propriétaire de ses électeurs. Et c'est ça qui se jouera sur le Front républicain. C'est que le Front républicain, c'est les électeurs qui le font. On l'a vu dans beaucoup d'élections où il y avait le Rassemblement national, ça se termine en référendum pour ou contre le Rassemblement national, et les partis charnières qui se maintiennent voient parfois leur nombre de voix baisser parce que les électeurs massivement se reportent sur le candidat le plus à même de battre le Rassemblement national. Donc pour LREM, le risque, c'est de se maintenir et d'être humilié, en quelque sorte, avec un score de second tour qui serait plus faible que le score de premier tour. Ce serait de se prendre une leçon par les électeurs qui feraient eux-mêmes, même au corps défendant de LREM, leur Front républicain. C'est pour ça que, du côté de l'état-major, la République En Marche, on se dit que dans ces cas-là, bah, ce serait peut-être mieux de faire en sorte qu'il y ait soit un accord, soit pas de candidat à LREM. En tout cas, de tout faire pour que la volonté de ne pas faire gagner le Rassemblement national paraissent émaner de LREM eux-mêmes.
Mmh. Guillaume Tabar, effectivement, ce choix hein, qui va être fait au cas par cas dira beaucoup de la stratégie d'Emmanuel Macron vis-à-vis de ses adversaires potentiels à la présidentielle.
Oui, mais je crois que le point important, c'est qu'on ne peut pas raisonner ce soir dans une configuration de second tour. Parce qu'on ne sait pas quel sera l'impact, l'éventuel choc des résultats concrets du soir du premier tour. Ensuite, vous disiez que celui qui se maintient malgré tout court le risque d'être ridiculisé. On parle précisément de la région Grand Est. Précisément, Grand Est, la dernière fois, il y a 6 ans, comme en PACA et comme dans les Hauts-de-France, le FN était très haut. C'était Florian Philippot qui le conduisait à l'époque. Il était largement en tête au premier tour et on disait en position de gagner. Manuel Valls, Premier ministre, demande aux candidats socialistes de se retirer. Il se retire dans le Nord, il se retire dans le Sud. Et dans le Grand Est, Jean-Pierre Masseret, le président sortant, refuse de se retirer. Il maintient sa liste et il maintient son score, quasiment à quelques dixièmes près. Il maintient son score et Florian Philippot n'est quand même pas élu parce que on croit que parce qu'une liste est en tête au premier tour, qu'elle a une dynamique gagnante au second tour. On a vu dans le cadre du Rassemblement national, enfin du FN à l'époque, du RN aujourd'hui, que même étant très largement en tête au premier tour, ils ont toujours un problème de report de voix. C'est-à-dire qu'ils captent la quasi-totalité, en tout cas l'immense majorité de leur électorat dès le premier tour. Ils ont du mal à en gagner au second tour. C'est pour ça que et Marine Le Pen et Marion Maréchal, en faisant plus de 40% au premier tour en 2015, n'ont pas été élus au second tour. Donc là, on a des sondages où on a des listes RN qui sont à 32, 33, 34. On dirait qu'ils sont en tête. Mais ça ne dit rien des mécanismes de report de voix de second tour.
En tout cas, cet entre-deux-tours s'annonce passionnant. On le vivra bien sûr avec vous, les grandes voix, dans nos prochains rendez-vous dès lundi, une fois qu'on aura un peu décrypté tout ça tranquillement. Merci les grandes voix. À très bientôt.
Europe 1. Isabelle Millet.
Dans un instant, je reçois, on continue à parler des régionales, puisque je reçois Natacha Bouchard, la maire Les Républicains de Calais, candidate aux côtés de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, tête de liste dans le Pas-de-Calais. 18h47, merci à vous d'écouter Europe 1, c'est l'heure de l'invité d'Europe Soir et à l'avant-veille du premier tour des élections régionales, je reçois ce soir Natacha Bouchard, maire Les Républicains de Calais, candidate aux côtés de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, tête de liste dans le Pas-de-Calais. Bonsoir Natacha Bouchard.
Bonsoir.
Alors nous sommes à quelques heures de la clôture de cette campagne et je vais vous poser, Natacha Bouchard, la même question qu'à tous les candidats que nous avons reçus cette semaine. Pourquoi voter pour vous ?
Parce que nous avons en fait une liste avec Xavier Bertrand qui se bat chaque jour pour les autres, parce que nous aimons notre région, parce que nous sommes une liste et des listes composées en fait d'élus locaux qui avons été élus l'année dernière au municipal, parce que nous sommes des élus de proximité et nous pouvons mettre en œuvre les projets. Et parce que nous avons un programme et cette liste, c'est au-delà de ce programme et de la mise en œuvre, un état d'esprit. Ce n'est pas juste un slogan de campagne, c'est une volonté partagée, un engagement commun, un bilan solide et toujours avec en arrière-plan la lutte contre le chômage qui reste notre priorité.
Alors justement, en 2015, Xavier Bertrand promettait de remettre sa région au travail. Le chômage dans les Hauts-de-France, il est à 10,4% et chez les jeunes à 25,6%, ce qui en fait la région métropolitaine où il est le plus haut. Hein. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, Natacha Bouchard ?
Mais écoutez, il a déjà fonctionné puisque s'est rapporté le taux de chômage de 2015. On a vu que ce taux avait largement diminué. Et que nous sommes sur cette bonne voie de la remise en condition de la création d'emplois. Nous nous sommes battus afin de ne pas perdre de grandes entreprises. Nous nous sommes battus pour sauver les emplois. Nous avons réussi à en créer de nouveaux. Je tiens à dire que ce bilan en fait économique en termes d'emploi, contrairement à ce qu'on peut dire, est très positif puisque il est un des taux qui a en tous les cas le plus baissé en termes d'accélération sur l'ensemble des 6 dernières années.
Donc vous dites malgré les chiffres, c'est quand même pour vous un bon bilan. Vous aviez une mesure phare, Proche Emploi. L'idée c'était de mettre en lien les demandeurs d'emploi avec les employeurs par l'intermédiaire de la région. C'est un dispositif qui a été critiqué par la Cour des comptes. Est-ce que vous allez malgré tout le maintenir si vous êtes réélu ou est-ce qu'il faut le revoir ce dispositif ?
Non, non, nous gardons Proche Emploi. Pourquoi ? Parce que avec les différents échanges dans la réalité, voilà, avec les chefs d'entreprise, eh bien, nous avons tout simplement constaté que ce dispositif fonctionnait mieux que Pôle Emploi. Que voulez-vous ? Nous avons essayé un dispositif en circuit court et les chefs d'entreprise qui l'ont utilisé ont en tous les cas eu satisfaction beaucoup plus vite. De façon plus rapide, ceux qui cherchaient du travail également. Proche Emploi est un dispositif qui permet de rapprocher en fait au plus vite celles et ceux qui recherchent donc des emplois et puis ceux qui ont à les proposer.
Oui, mais la Cour des comptes, elle s'interroge quand même sur l'efficacité de cette mesure qui mobilise, dit-elle, 2 millions d'euros de charges salariales et de fonctionnement.
Oui, tout à fait. Je pense que nous l'assumons hein, en termes de budget.
C'est beaucoup d'argent.
Comment ?
C'est beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent, mais pour l'intérêt, excusez-moi, mais de pouvoir faire trouver plus rapidement aux entreprises et à ceux qui cherchent un emploi le fait de pouvoir mieux se connecter et de répondre à une demande très forte des chefs d'entreprise, eh bien, c'est un choix budgétaire pour justement permettre une dynamique plus importante que celle que nous avons à subir par certains, malheureusement, organismes qui sont plus adaptés à la réalité des terrains.
Natacha Bouchard, dans les Hauts-de-France, je crois que près d'une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. La région se classe même deuxième région métropolitaine la plus pauvre après la Corse. Quels sont vos projets pour lutter contre ça ?
Alors, nous avons et nous allons donc continuer à travailler beaucoup sur les solidarités, malgré le fait qu'il ne s'agit pas de la compétence première de la région. Nous avons bien sûr cette compétence en développement économique, transport, mais les solidarités restent pour nous qui des éléments voilà, très, très puissants. Nous accompagnons celles et ceux qui en ont besoin. Nous accompagnons les travailleurs qui ont des faibles revenus. Nous accompagnons et nous allons accompagner également à travers la proposition de la prise en charge d'une partie de la mutuelle, eh bien, nos jeunes et également les retraités qui sont avec des minima en fait, sociaux qui ne leur permettent pas eh bien, d'avoir la CMU parce qu'ils ont quelques dizaines d'euros au-dessus. Et ça, c'est une mesure forte. Je pense que c'est même une première. Il est important que nous ayons cet accompagnement et cette reconnaissance. Parce que quand vous avez en fait le minimum vieillesse à près de 840-850 euros, eh bien, supporter une mutuelle à entre 110 et 150 euros, c'est tout simplement insupportable. Et donc, dans ces cas de figure, personne en fait n'a osé un jour les accompagner. Ces personnes qui ont travaillé toute leur vie et pas à 35 heures. Et par conséquent, il est important, nous, de les accompagner pour montrer notre intérêt et notre reconnaissance vis-à-vis de ces publics. Et
bien.
Puis pour nos jeunes, ça leur permet aussi de pouvoir mettre le pied dans le dispositif de santé pour les protéger pour l'avenir.
Alors pour en revenir au scrutin de dimanche, Natacha Bouchard, vous savez que votre région va être particulièrement scrutée. Xavier Bertrand vise un second mandat avant de se lancer dans la campagne présidentielle. Il a l'avantage hein, dans les derniers sondages. Selon Ipsos Soprasteria, il serait en tête des intentions de vote au premier tour avec 34% contre 32% contre Sébastien Chenu, le candidat Rassemblement National. Vous pensez être la seule liste qui peut empêcher le Front National de diriger cette région des Hauts-de-France ?
Oui, c'est une évidence. Nous l'avons prouvé en tant qu'élus locaux, déjà dans nos collectivités et moi plus particulièrement, comme vous le savez, à Calais, où le Front National stigmatise toutes les problématiques telles que les migrants, la sécurité, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Et donc, très simplement, le Front National, ici à Calais, a à peine atteint 17%. Je suis repassée pour un troisième mandat au premier tour. Cela prouve que, eh bien, on n'a pas besoin d'être d'extrême droite pour avoir des réponses pragmatiques et défendre les gens sans tomber, en fait, dans l'extrême et ses dérives.
La liste LREM de Laurent Pietraszewski est soutenue par cinq ministres, dont celui de l'Intérieur, celui de la Justice. Selon Damien Abad, le chef des députés LR à l'Assemblée, envoyer la moitié du gouvernement contre Xavier Bertrand montre l'inquiétude de la majorité actuelle, mais aussi à quel point il est devenu le principal challenger du président de la République pour 2022. Vous êtes d'accord avec ça ?
Bon, écoutez, je pense que ce qui est clair, hein, c'est que bon, les gens ont du mal à comprendre pourquoi autant de poids lourds dans une région sur une élection où on a un leader pour et contre le Front National qui s'est battu pour que ce Front National n'intervienne pas en tous les cas le moins possible. Un président de région qui se bat au quotidien contre tous les mensonges et les méthodes du Front National qui, je le rappelle, est donc porte des valeurs d'extrême droite. Et à partir de là, les gens ne comprennent pas non plus que des ministres aient à se mobiliser alors que, eh bien, il y a une personne dans cette région qui, pour cette région de France, est en capacité à pouvoir la gérer.
Une dernière question, Natacha Bouchargaz, et Xavier Bertrand a martelé que la liste serait la même au premier et au second tour, ni fusion, ni arrangement, quitte à ce que la région bascule dans les mains du RN.
Pourquoi voulez-vous que la région bascule dans les mains du RN?
Pourquoi ça pourrait se jouer sur le fil au second tour?
Non, je ne pense pas. Je pense très clairement que les électeurs, s'ils se déplacent au premier tour, il faut d'ailleurs qu'ils se déplacent au premier tour, qu'ils choisissent au premier tour cette liste de Xavier Bertrand et de son équipe. Si on veut clairement combattre le Front National, il faudra que celles et ceux qui sont troisième ou quatrième de liste se positionnent pour afficher effectivement le message qu'ils portent depuis le début de l'élection. Se positionner contre le Front National, c'est faire obstacle au Front National.
Merci. Merci beaucoup Natacha Bouchard d'avoir été l'invitée d'Europe 1 ce soir en direct. Notre radio qui vous fera vivre ces élections régionales avec une grande soirée dimanche dès 19h30.
Europe 1, Isabelle Millet.
Dans un tout petit instant, on retrouve Christophe Lamarre pour votre journal de 19h. À tout de suite.